présenter un petit peu, non pas l'état de la recherche, mais ce qui me préoccupe en ce moment. Et vous dire aussi, depuis ce matin, ce sont des enseignants-chercheurs, en fait, hein, qui s'adressent à vous, qui prennent le temps de faire de la recherche. Ça prend beaucoup de temps, ça prend de l'argent. Enfin, ça coûte de l'argent, on va dire aussi. Et on a des enseignements à faire. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui pèsent sur nos épaules. Et le temps de faire du terrain, ou l'occasion de faire du terrain, est assez rare. Voilà, je tenais à préciser cela. Alors, préambule, justement, venons-en à ce contexte de l'intervention, pour moi, qui est ce colloque pratiques artistiques et transmission culturelle, hein, c'est ça. Je pense que je suis ici, d'une certaine manière, un petit peu par accident, parce que je ne suis pas un spécialiste des musées, hein, je viens plutôt du monde de la critique d'art, du monde de l'esthétique, et j'observe non pas les usages, mais plutôt, on va dire, ce qui se joue du côté de la création artistique. Et ce qui m'a intéressé du côté des robots, cette discussion, excusez-moi, je crois que je suis en train de digérer, en fait, tout simplement. ce truc sur les robots, enfin, cette interrogation sur les robots vient d'une préfiguration, voilà, d'une enquête de terrain. Et ça, c'est extrêmement important, d'une recherche académique, à savoir qu'est-ce que serait aller enquêter dans le champ muséal, dans l'espace, dans les mondes de l'art, sur la présence des formes non humaines et des robots. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose qui relève d'une certaine manière d'une préparation. J'essaye de voir ce qu'il y a, ce qui se joue dans le monde à la fois des médias, sur Internet, sur YouTube, etc. Quels sont les discours qui sont prononcés, qui sont formulés de la part de tous les acteurs du monde de l'art quant aux robots. Et je vais essayer de déconstruire ça. Mais on ne peut pas déconstruire cela sans aller sur le terrain et voir comment ça se passe précisément. Donc ici, c'est une sorte de cartographie des enjeux, des acteurs, pour voir un petit peu où il faudrait aller se déplacer et quel type de questions peut-être il faudrait engager, mais certainement pas seul, en groupe ou en collectif. Donc voilà l'objectif de ma communication. Donc, j'ai très très bien fait mon PowerPoint. D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est pour moi, il y a vraiment une distinction à faire concernant les espaces d'exposition. On va y venir, j'ai commencé à parler de ça ce matin. Mais il y a une distinction d'abord entre les robots et les espaces d'exposition. Alors qu'est-ce que c'est un robot? D'abord, ça c'est quelque chose d'important. Le robot, c'est un néologisme qui vient du monde de la culture et du théâtre, plus précisément. Hein. Donc c'est Karel Čapek qui a inventé ce mot robota et qui veut dire travail forcé. Et ça, il a inventé ce terme à l'occasion d'une pièce de théâtre qui a pour titre Ruhr, robot universel de Rossum. Et comme il est indiqué, donc voilà, ça évoque un fait fictionnel, forcément. Ruhr est une usine, donc qui est le nom de la terre, d'esclaves artificiels censés soulager les hommes de leur corvée. Et puis progressivement, ce qui va se passer, c'est que d'une certaine manière, il y aura quantitativement plus de robots sur terre que d'hommes, et donc ce sont les robots qui vont peut-être penser à la destinée et à la gouvernance du monde. Et donc cette pièce de théâtre parle de cela et commence à un moment un peu improbable où on ne sait pas qui est humain et qui est véritablement robot. C'était une visite de l'usine. Donc ça vous fait fortement penser à une série télévisée qui s'appelle Real Humans, certainement. Autre point aussi important, qu'entend-on précisément quand on parle de robot? Aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver un objet qui pourrait répondre à cette désignation-là. Et comme le dit le journaliste Hubert Guyot, aujourd'hui, tout désormais est potentiellement robot, d'une certaine manière, parce qu'on peut implémenter à des objets des puces, etc., des puces pour calculer ou bien pour connecter les objets entre eux. Et d'une certaine manière, la question qui se pose, c'est quelle est la forme des robots et quelles nouvelles formes vont-ils pouvoir prendre? Et donc, on est bien loin encore des images d'Épinal ou des images de Star Wars qui sont là. Dernier point sur les robots, un designer qui s'appelle Dominique Tiama, qui est donc directeur du développement de la recherche au Strait College à Londres parle désormais de Robject, et ça c'est extrêmement intéressant aussi. C'est un néologisme, alors je ne sais pas s'il aura une carrière très très longue ce néologisme, mais l'idée du Robject, c'est de se dire que les objets donc deviennent des robots aussi et inversement. Et donc peut-être la question qui est essentielle et qu'il faudra se poser, et je pense que ça va être aussi le fil rouge de mon propos, c'est non pas que font ces robots, mais comment allons-nous vivre avec eux et quel type de lien allons-nous développer avec ces machines. Un peu étrange de dire ça, mais visiblement c'est ce qui inquiète et ce qui interroge beaucoup les designers. Voilà. Ensuite, la question des espaces, ça c'est... Ah non, excusez-moi, je me suis encore trompé. Il faut imaginer aussi les robots comme des opérateurs en art. Ça c'est aussi peut-être un néologisme qui est important, mais qui a du sens pour moi, c'est que les robots ne sont plus des sculptures, ne sont plus des œuvres d'art. Enfin, généralement, on nous présente les robots dans des expositions comme des sculptures animées, etc. Mais les robots sont peut-être les assistants ou peut-être des artistes ou des co-artistes, enfin co-créateurs de l'œuvre avec l'artiste. Alors voici quelques exemples pris, qui illustrent hein, d'une certaine manière mon propos. Ici, vous avez une œuvre de Stéphane Sautour, hein, ce sont deux chiens Aibo. Donc, je vais avoir quelques vidéos. Je vais vous montrer. Bon, j'ai 45 minutes, mais j'ai plein de vidéos et je ne vais pas faire une analyse de toutes ces vidéos, mais ce qui est intéressant ici, c'est quand même le point de vue, c'est au sol. Hein. Ça veut dire que si on regarde cette performance, c'était une performance, les spectateurs, c'était dans la galerie Lovenbrook à l'époque, étaient d'une certaine manière accroupis pour regarder ce combat-là. Alors on avance, je ne vais pas faire une analyse de cette œuvre. Il y a ce genre de robot qui n'est plus un robot véritablement, mais qui est un bot expert en conversation et plus précisément en art. Ici, c'est une œuvre signée Agnès Decailleux. Ce bot s'appelle Alissa et elle a été exposée, activée, ou elle a joué, je ne sais plus, en 2007, donc au jeu de paume. Et c'est un robot extrêmement intelligent et cultivé. Agnès Decailleux a nourri, on va dire, ouais, ce robot de textes de Marguerite Duras, de films de Chris Marker et autres, etc. Et donc elle a essayé de donner beaucoup de contenu sémantique, peut-être, à ce robot en vue d'un dialogue avec des internautes. Ici, l'image, c'est Alissa dans Second Life. Mais il faut bien les images parce que ça n'existe pas non plus, il n'y a pas d'aspect tangible. Ça, c'est mon robot préféré, Bibi. Bibi, c'est cette boîte de conserve qui est là et qui rejoue quoi, une performance de Bruce Nauman. Une performance qui est assez particulière puisqu'elle consiste en fait à suivre, allonger... un carré dessiné sur le sol. Et ce qui est assez extraordinaire, alors j'ai pas de vidéo ici de Bibi, mais c'est que on reprend l'énoncé, mais toute la dimension corporelle, tout ce qui fait peut-être le travail, l'intérêt du travail de Bruce Nauman, à savoir se déhancher, cette lenteur, et puis le temps passé à regarder cette vidéo où peut-être il ne se passe pas grand-chose, est complètement évacué parce qu'il y a peut-être un effet un peu plus spectaculaire de voir Bibi se déplacer. Voilà. Autre, et ça c'est peut-être intéressant par rapport aux discussions de ce matin, un robot aussi complètement désincarné d'une certaine manière, hein, Knapp exposant N de Pierre Giner. Donc c'est un robot qui va générer de nombreuses hypothèses d'accrochage de la collection du Centre National des Arts Plastiques. Là aussi, en fait, ce qui est intéressant, et je pense à la fois pour le public, pour nous, mais aussi pour les commissaires et pour les collectionneurs, c'est comment faire face maintenant à la quantité, à la manne d'œuvres et d'expositions qui sont là devant nous, et comment, non pas nous pouvons-nous tout voir, mais comment gérer cette manne-là et se construire peut-être un parcours à l'intérieur de cet ensemble de données culturelles que sont les œuvres. Est-ce qu'on peut aller vers les bonnes, les moins bonnes, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'on voit qu'il y a des stratégies de mise, de visualisation de l'ensemble de ces œuvres pour proposer des parcours. Bon, il y a eu à peu près la même chose à la Maison Rouge aussi, il y a quelques années. Ici, c'est un robot d'un artiste qui s'appelle Michael Selam. Alors, je vais juste activer la vidéo et on peut baisser un tout petit peu le son. Ce sont des robots musiciens. Mais bon, ce sont des robots qui fonctionnent vraiment. Ce matin, on a beaucoup parlé de détournement ici, en fait, et par rapport à tout ce qu'on a vu, il ne s'agit absolument pas de détourner, mais plutôt de perfectionner l'objet, en fait, et de faire avec lui quelque chose qu'on n'avait pas envisagé. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est dans tout ce qu'on a vu, là, ces robots continuent de fonctionner normalement, mais on leur fait faire autre chose, ou on les programme pour faire autre chose. Et Michael Selam est vraiment expert dans ce domaine. Il travaille avec des ingénieurs qui ont développé des robots, donc ce genre de robots-là ou d'autres, dans le cadre de projets ANR. Et il demande à des ingénieurs d'imaginer quelque chose qu'ils n'avaient pas eu le temps, quelque chose qu'ils n'avaient pas eu le temps d'imaginer. Et ça, c'est vraiment important. Ici, l'art devient une espèce de, on va dire, de sphère ou de terrain, d'espace où on a encore le temps de penser aux choses et d'imaginer le possible ou des possibles utilisations d'objets. Donc je vous invite à aller voir l'œuvre de Michael Selam, tout ça est sur le réseau Internet. Donc voilà, donc du coup, ma réflexion sur les robots dans les musées, elle est bien plus générale d'une certaine manière, c'est une réflexion sur les robots opérateurs en art, c'est-à-dire des robots qui vont intervenir dans la production d'œuvres et qui sont peut-être même donc les auteurs de ces œuvres, les assistants des artistes, et puis de l'autre côté, il y a peut-être une autre famille, donc il y a la famille des robots artistiques, on va dire, et puis de l'autre côté, il y a une autre famille qui m'intéresse, et que j'ai découvert, et quand je dis que je suis arrivé par accident dans ce genre de réflexion sur le musée, ce sont les robots qui peuplent désormais les espaces muséaux, comme si les robots étaient déjà là, et ça je ne le soupçonnais pas, en remontant un petit peu le fil comme ça, j'ai vu d'une certaine manière qu'il y a de nombreuses expérimentations, et tout à l'heure Emmanuel parlait des musées comme lieu de, comme laboratoire, et on se rend bien compte que les musées deviennent des laboratoires pour des recherches très pointues, alors peut-être sur l'étude des publics, mais en tout cas sur le développement de technologies de télécommunications essentiellement. Alors ça, on va parler de ça aujourd'hui, et donc je m'intéressais vraiment à l'espace d'exposition, et à un espace d'exposition bien particulier qui est celui du musée, et qui est un espace sacralisé, me semble-t-il. Alors c'est pas moi qui utilise cette formule-là, c'est Anne Krebs, qui travaille au Louvre et qui explique très très bien d'une certaine manière qu'on n'est plus dans un espace public mais qu'on est dans un lieu, où il y a des codes, des façons de se déplacer, des façons de se poser, enfin, peut-être que c'est intégré, etc. Mais on n'est pas dans un espace où les téléphones portables nous rendraient sauvages d'une certaine manière et on prendrait des photos n'importe comment. Alors tout à l'heure on a parlé de photos prises en cachette, etc. Mais justement tout ça est intégré peut-être parce que c'est un endroit où il y a une façon de se tenir et de se comporter. Donc voilà, par exemple, je pense que oui, on peut photographier des spectateurs, hein, des visiteurs. Par exemple, Thomas Trout est extrêmement un artiste extrêmement intéressant sur de ce côté-là. Alors ensuite, je prends beaucoup de précautions, hein, je suis dans mon préambule. Voilà, sorcellerie numérique et engouement robotique. On est victime de tout ça, on a envie, dès qu'on parle du numérique, on semble vanter le numérique, semble dire que c'est l'avenir de l'art, l'avenir de ceci, l'avenir de cela. Ben non, enfin, pas du tout, quoi. Enfin, je n'y crois pas du tout. Et engouement robotique, effectivement, aujourd'hui, si on est dans les nouvelles technologies, le numérique, etc., on est obligé de parler des robots. Donc j'ai bien conscience que je suis dans le mainstream total. Et c'est ce que je vais essayer de déconstruire un petit peu. Alors, le déconstruire comment ? Par une approche donc, esthétique et anthropologique. C'est important pour moi, enfin, je pense que je suis assez marginal dans ma discipline. Pour moi, je vais sur le terrain. Je ne peux pas parler de quelque chose qui est beau ou d'une œuvre sans l'avoir rencontré en tant que tel, quoi. C'est juste pas tenable. Et donc, voilà, il faut préparer le terrain. Et pour préparer le terrain, il y a peut-être des outils intéressants. Alors, j'en parlais tout à l'heure avec Jean-Paul Fourmentreau. Il y a ce sociologue qui s'appelle Jean-Marc Leverato. Je ne sais pas, pour moi, en tant qu'esthéticien, c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup parce qu'il a osé parler de la mesure de l'art. C'est quelque chose d'assez peut-être problématique hein, quand on est en philo de l'art. Et voilà, comment détermine-t-on la valeur artistique d'une œuvre? Et Leverato, je trouve, dit des choses assez intéressantes parce qu'il s'intéresse, je vais aller un peu plus vite, hein, il s'intéresse à des savoirs de qualité qui permettent de mesurer scientifiquement l'art, donc c'est l'histoire de l'art, l'économie de l'art, la philosophie de l'art, l'ethnographie de l'art, et puis aussi de porter un regard sur une mesure qu'il appelle ordinaire, et ce sont les discours et les pratiques et l'expérience de celles et ceux qui font l'art, les artistes, mais surtout, tout à l'heure, on l'a vu lors d'un échange, les médiateurs, les scénographes, les acteurs culturels, les critiques, les entreprises culturelles, etc. Et c'est ça, c'est cette parole-là qui est extrêmement importante aussi à faire remonter. Et seul le terrain nous le permet. Alors voilà, et dernier point sur le préambule, j'ai eu beaucoup de mal à parler d'usage, je parle plutôt de fréquentation. Pour moi, c'est la relation que j'ai à l'art et c'est la relation que j'ai au numérique. Fréquenter, c'est vivre avec, et ça c'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'on fait quand on vit avec les œuvres d'art, quand on vit avec les musées? Voilà, virtuel, parce qu'il fallait parler du virtuel, les virtuels et les objets d'art. Il y a les arts du virtuel avec les installations 3D, donc là j'ai mis quelque chose qui, bon, je pense, restera dans l'histoire, World Skin de Maurice Benayoun, hein, et qui vient du ZKM. Quelque chose aussi de très intéressant et qui a à voir avec les humanités numériques, les collections, un projet multimédia, hypermédia, qui vise à explorer des œuvres. Donc ici vous avez des jolies galettes, mais ça part aussi sur le réseau internet et dans le cloud, etc. Et enfin, des œuvres d'art voilà, le Jackson Pollock. Par Miltos Manetas, quelque chose d'assez extraordinaire, où vous pouvez avoir un manetas chez vous simplement en faisant ce genre de petit tracé avec votre souris qui est là. Alors, oups, je suis là en arrière. Donc ça, je vais laisser, je vais avancer parce que je voudrais en arriver à l'essentiel. Pour moi, je pense, et par rapport à tout ce que j'ai entendu aussi, l'essentiel, je crois que c'est plus ça. Enfin, plus ça, quoi. Enfin, ou pas ça, dans les musées. Ça, je me demande à quoi ça sert véritablement, parce qu'il est question effectivement d'attention et de distraction. Voilà. Et puis, peut-être le retour à l'objet, donc je reviens à Thomas Kuhn, mais bon, voilà le sens de mon propos. Alors maintenant, venons-en au fait et vraiment à l'intérêt. Les nouveaux opérateurs, quels sont-ils ? Alors, il y a des robots d'accueil dans les musées, et il y a des androïdes. Alors ici, ce n'est pas dans un musée d'art, on est plutôt dans un musée scientifique. Alors, je ne sais pas si c'est le patrimoine, on va baisser le son, s'il vous plaît. Oui, alors vous aurez le droit à toute la... ce sont des vidéos broadcast, hein, accrochez-vous bien. Hein. Et ici, c'est une vraie performance. Pour le coup, ce qu'on entend par robot, ce sont souvent des formes... Enfin, il y a beaucoup d'anthropomorphisme. Et donc on va tout de suite vers l'androïde ou l'humanoïde. Et au Japon, donc Ishiguro développe vraiment des objets qui ont une forme humaine et qui ont désormais des apparences humaines, enfin, etc., qui sont assez troublants. Mais voilà, l'avenir, peut-être, je ne sais pas ce qu'il est possible, mais ce que l'on peut rencontrer au centre Georges Pompidou, à l'entrée, là, dans la hall, on pourrait avoir affaire à ce genre de personnages-là. Bon, je passe. Nous avons après, donc moi, ce que j'appelle des boîtes de conserve, et ça, c'est extrêmement peut-être intéressant. Ça se passe depuis 2000 à Berlin, au musée de la communication. On n'est pas dans un musée d'art, mais je pense que c'est assez intéressant. Il y a 3 robots qui œuvrent dans le patio du musée de la communication. Un robot qui est un robot dit incitatif, un robot guide et un robot qui joue avec les enfants. Quand je parle de boîte de conserve, vous voyez, ça vous rappelle peut-être la balance de votre boucher ou je ne sais quoi. Et ça, c'est un robot qui est un robot guide, hein, il y a un joystick, et il va vous indiquer où vous pouvez vous orienter ou trouver tel ou tel tel ou tel appareil de télécommunication. Et voilà. Et donc, il se déplace dans une zone vraiment très précise. C'est-à-dire qu'il ne va pas dans les salles d'exposition, mais il reste bel et bien, dans ce patio-là. Donc voilà, on les voit se déplacer. Il y a une sphère qui est là. Tiens. bon, voilà. Donc, je vais faire... Pardon ? Ben, justement, c'est la question que je me pose d'une certaine manière, mais ici, pour dire ça sert à quoi, c'est que pour la première fois, il y a trois robots qui sont là et qui ont des fonctions précises et bien distinctes, en fait. Et il y a un robot pour les enfants, on voit les enfants s'amusent avec les robots, et un autre qui va commencer à guider à répondre aux questions peut-être, et l'autre incitatif, donc qui donne des indications sur ce qu'on pourrait aller voir. Donc c'est des comportements peut-être qui sont là, et ça, c'est pas inintéressant à voir. Donc bon, voilà. Ensuite, des robots guides et conférenciers. Donc ça, c'est beaucoup plus classique. Ça se passe en Corée du Sud et vous avez ce genre de robots. J'ai pas de vidéo. Et vous voyez là aussi l'aspect. Là, c'est très important. Alors, on pourrait parler de design, mais je parlerai plutôt d'aspect de ces robots. Ce sont des robots plutôt pour des jeunes publics. Hein, ils sont de petite taille et ils accompagnent les jeunes publics dans les salles du musée. On n'est pas dans le musée d'art encore, j'y tiens, mais ce sont des robots donc médiateurs d'une certaine manière, et ce sont ni plus ni moins des iPads customisés avec des informations qui sont peut-être sur le site. J'ai pas pu vérifier encore, mais ce que l'on voit, c'est que la forme du iPad ou de l'écran ou du site mobile est là, quoi. Mais simplement, il a la forme d'un jouet et roulant, et voilà. Donc ça attire. Et ça attire l'attention de ces jeunes spectateurs. Alors, ce qui m'intéresse le plus, et c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé de l'intérêt, ayant étudié les webcams dans les années 90, ce sont les robots de téléprésence, qui, à mon avis, sont peut-être l'avenir véritablement des robots dans les musées. Alors, il y a eu quelques expériences, hein, notamment en 2007 au château de Versailles. Alors, voilà un robot de téléprésence. Un robot de téléprésence, ça veut dire que c'est le robot qui se déplace dans la galerie, hein, qui se déplace devant les œuvres, mais il est piloté par un opérateur qui peut être un opérateur professionnel ou amateur dans un lieu qui est distant, alors distant géographiquement ou dans une autre pièce. Vous avez, alors attention, là aussi, accrochez-vous, donc ce n'est pas le champ de l'art, mais vous avez deux robots en Australie, Chester et Kasparov. On va quand même regarder la vidéo pour voir comment tout cela est théâtralisé, comment ça fonctionne bien et comment ça donne envie et comment c'est l'avenir de la relation à, non pas à l'art mais à la culture ici.
Okay, we're at the Gungahlin Digital Hub and we're about to take a tour of the National Museum of Australia. If you could open your laptops, we'll get started. Today, the students are taking a virtual tour of the National Museum of Australia with the CSIRO Virtual Museum Robot.
Hello and welcome to the National Museum of Australia.
Museum Robot here is a telepresence platform that allows remote visitors from all over Australia to dial into the museum and get a virtual tour of the museum's exhibits and be able to see the exhibits in the gallery in a panoramic sense and be able to access all sorts of extra information. The robot knows exactly where it is at any one time to within about 1 or 2 centimeters, and we can send the robot to anywhere in the gallery that the visitors want to see.
We're now here at Farlap's Heart. It's a little bit gruesome.
You can look around the entire room.
Oops. Pardon. Alors, ce qui est intéressant avec ce robot-là, c'est que la dimension, on va dire, collective de la visite, à distance, elle est toujours là, en fait. Enfin, on a une visite de groupe à distance par le biais de ce iPad roulant, de cette plateforme roulante, qui ressemble d'ailleurs à une voiture Google, hein, avec ses neuf caméras. On avance, parce que le temps court, Château d'Oiron, avec ce robot qui s'appelle Norio, qui est l'acronyme de Oiron. Et là, il a une visée beaucoup plus précise, ce robot, parce qu'il répond peut-être à une attente particulière qui est, d'une certaine manière, de pouvoir rendre accessibles des espaces d'exposition où des handicapés moteurs ne peuvent pas accéder, d'une certaine manière. Donc il faut se rendre sur le site. On s'installe dans un espace pour piloter le robot, mais on visite et en même temps on est présent pendant la visite parce que ce robot montre notre image, notre visage. Donc on est présent aussi. Et ça, c'est intéressant. Donc c'est notre dimension, cette présence-absence et cette visite à distance qui est en train de s'installer. Alors j'avance aussi, j'ai encore plein de vidéos à vous montrer. Je pense que de les voir en action, ça paraît c'est extrêmement important. Ensuite, la Tate Britain, en 2014, a lancé... Alors il y a un programme d'innovation ou les applications... Pour accéder à la culture, inventer des applications intelligentes ou des programmes intelligents. Et en 2014, il y a un groupe de designers qui a remporté le projet avec l'idée de visiter la Tate la nuit, de visiter les collections la nuit, donc sans les visiteurs physiques, mais surtout sans la lumière. Normalement, le musée, c'est le lieu où il y a de la lumière. Enfin, bon, pas un musée d'art contemporain avec... Les boîtes noires, etc. Mais il n'y a plus rien. Et donc, vous avancez comme ça, vous pilotez de chez vous ou d'une plateforme votre robot qui a été spécialement conçu pour cela. Et il a deux, comme vous l'avez vu, hein, il y a des éclairages. Et vous avancez dans l'obscurité. Donc, c'est un peu la caverne de Platon, hein, si vous voulez. Vous avancez à tâtons et vous essayez d'aller voir les œuvres, d'aller redécouvrir une œuvre. Oui, c'est ça, une œuvre autrement. Donc c'est une autre expérience esthétique et c'est ça qui est intéressant. C'est finalement errer peut-être et surtout voir autrement les pièces. Alors je ne sais pas ce que ça peut procurer comme expérience, mais voilà, j'ai rencontré ces personnes et surtout je dois faire des enquêtes de personnes qui ont fait, qui ont pratiqué ce robot. Voilà. Ensuite, vous avez le musée des Confluences. Alors ça, c'est la chose la plus traditionnelle. C'est un robot qu'on appelle le robot BIM. Ici, on n'est pas dans un musée d'art, on est encore dans un musée de culture. J'ai trouvé que cette vidéo, hélas, mais au Grand Palais ou au musée des Confluences, on utilise ce genre de robot pour faire de la visite. De la visite à distance. Donc voilà comment ça se passe. C'est-à-dire que vous êtes à la fois distant mais présent et on est en train de vous parler et c'est vraiment le iPad hein, sur roulette. On vous voit et il y a une caméra vidéo qui filme le conférencier. Donc dans tous ces dispositifs, il y a une interaction entre le guide, le conférencier et puis le visiteur qui n'est pas là et qui parfois peut gâcher, on voit bien, le paysage et créer un peu de désordre. Beaucoup de questions se posent sur le déplacement et peut-être sur l'accident possible, la rencontre malheureuse avec un objet d'art. Autre robot intéressant, Virgile, en Italie. Virgile permet d'accéder à des réserves ou permet d'accéder à des espaces où on ne peut pas accueillir un public, où on ne peut pas accueillir beaucoup de personnes. Et donc, il permet d'augmenter l'espace de visite. On est sur le site, hein, on a des tablettes, on regarde ce qui se passe. Mais Virgile, d'une certaine manière, nous donne accès à des choses qui ne seront jamais véritablement ouvertes au grand public. Donc voilà aussi une autre utilisation. J'espère que je suis dans les temps encore, ça va. Bon, tout merci. Des robots pour modéliser. Alors ça, c'est la particularité. C'est ça, c'est cette chose-là, hein, c'est le Google Trolley, c'est le chariot de Google, hein, c'est la Google Car version musée. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on a affaire, tout à l'heure je parlais d'opérateur en art, un opérateur, hein, normalement c'est quelqu'un qui fait fonctionner la machine, et là on a des opérateurs qui font fonctionner cette machine, qui la poussent, peut-être précisément, mais cette machine, c'est quand même un robot qui est en train d'enregistrer, hein, de photographier, de géolocaliser, d'archiver, etc. Et il y a un quadrillage de l'espace muséal et l'opérateur humain, lui, n'est que la force motrice, d'une certaine manière, de ce robot. Alors ce robot sert en fait au grand projet Google Art Project, c'est-à-dire à à produire des images que l'on va pouvoir consulter. On en parlera tout à l'heure, mais ce robot-là, c'est un robot comme les opérateurs Pathé ou comme les opérateurs de je ne sais quelle société de photographie qui vont prendre des images pour après assembler tout ça dans des films ou bien dans des ensembles de collections de films. Ensuite, vous avez les robots mouchards. Alors Florence en a parlé tout à l'heure. Avec cette idée, alors est-ce que ce sont des robots ou pas des robots? En tout cas, ce sont des algorithmes et on voit qu'il y a un potentiel énorme, un retour possible sur expérience quand on utilise une application qui est produite par un musée ou bien par un centre d'art. Il y a la possibilité de dérocher d'une certaine manière. Et là, le 4 août 2015, on voyait qu'en France, il y avait 316 applications mobiles muséales et patrimoniales qui étaient à disposition du public. Donc vous voyez le potentiel, là aussi, c'est ce qu'on appelle les gisements de données. Donc tout ça nous conduit vers un deuxième point, et là je reprends la novlangue actuelle, hein, de nouvelles configurations, j'y crois vraiment, avec de nouvelles relations entre musées et appareils industriels. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on va aller sur le terrain, il faut s'intéresser d'abord à la conception des robots, et on voit que la conception des robots, c'est concerne à la fois la plateforme technologique, et la conception des logiciels. Donc en Corée, il y a cette société Corbel qui a fabriqué les robots que vous avez vus tout à l'heure. En Italie, il y a cette télécom italien qui est derrière le robot Virgile. Et puis en France, vous avez BIM et Droids Company. Droids Company, c'est la société qui a fabriqué Norio. Donc voilà des terrains qu'il faudrait bien entendu aborder. Ensuite, il y a cette question de ce que l'on appelle l'écosystème numérique. Qu'est-ce que c'est l'écosystème numérique? C'est ni plus ni moins ce site internet, le fait de le rendre peut-être responsive, etc. Les applications qui sont sur téléphone portable, etc. Et l'on voit, et depuis ce matin on parle beaucoup d'Orange, on voit qu'il y a des acteurs incontournables, Orange pour les infrastructures, pour la technologie computationnelle, Faber-Novel pour le design et tout ce qui est API. Et puis il y a un autre acteur qui arrive désormais, et on le voit beaucoup à la RMN, on va mettre un tout petit peu de son, c'est comment Google, dans son projet Google Project, va googliser la RMN, va googliser, à mon avis, le Grand Palais dans le discours et dans la façon dont ce message est construit aussi. Ça interroge d'une certaine manière, parce que c'est visible, compréhensible.
Et un des emblèmes les plus connus de la ville de Paris. Elle était construite en 1900 pour inaugurer le XXe siècle, en même temps que la Tour Eiffel. Tout le monde ne le réalise peut-être pas, mais le Grand Palais représente un défi architectural aussi incroyable que la Tour Eiffel.
On va baisser le son, merci. Donc en fait, s'intéresser au numérique, c'est pas s'intéresser aux robots, aux applications, c'est à tous ces objets qui sont là, qui font une constellation d'objets qui vont donner du sens quand ils sont rassemblés. Et donc ici, vous voyez la fameuse Google Trolley. Et on est en train de numériser, de modéliser le Grand Palais pour pouvoir le consulter ou consulter les œuvres qui sont parfois exposées sur un site Internet. Voilà, donc tout ça... vous voyez, les opérateurs, c'est extrêmement... Les drones, il y a tout, il y a la panoplie quoi, en fait, de tous les gadgets. Néanmoins, pour un résultat, donc, on va y revenir, qui est là et qui va donner accès véritablement à cet espace-là, à des gens qui habitent à des milliers de kilomètres. Autre chose aussi dans les nouvelles relations entre musées et appareils industriels, parce qu'il y a eu ces robots et parce qu'il y a Google désormais, les animations culturelles et ces fameux Art Talks. Là, c'est un extrait d'un article publié dans le Journal des Arts en 2013 et qui nous dit ceci. Depuis mars 2013, il est possible de suivre des discussions en ligne, Art Talks, menées par des directeurs de musées, conservateurs, historiens de l'art, des plus grandes institutions culturelles, qui dévoile les histoires cachées derrière des œuvres choisies, etc., etc. Donc on voit comment Google est devenu aussi un acteur dans la programmation peut-être des événements culturels et artistiques, comment il est aussi prescripteur du côté des colloques et du côté de tout ce qui a à voir avec le cadre scientifique ou l'approche scientifique de l'art. Enfin, Autre point encore, il y a l'Internet des objets et les applications, avec Google encore et le Getty Museum. Hein, on prend une photo et donc on est connecté, on a des images. Je vais très vite, mais c'est le complément de médiation et on en a parlé tout à l'heure. Le musée Jacques Marandré à Paris qui a testé une technologie qui semble extrêmement intéressante, qui est cette technologie Ibicom, pas besoin d'avoir du son. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est qu'on conserve un espace d'accrochage extrêmement propre. Il n'y a pas de QR code, il n'y a rien, il n'y a pas de technologie apparente, si ce n'est dans un coin, quelques bornes qui sont installées, très discrètes, hein, qui sont là, et qui vont avoir un effet de déclenchement d'informations, de lancement de notifications, dès que vous passez devant une photographie, une installation, etc. Ça encore, c'est de la communication ce qui est montré. Est-ce que ça marche vraiment, tout ça ? Tout ça doit être vérifié, tout ça doit être testé, tout ça doit être étudié, analysé. Et on parlait beaucoup de Dominique Cardon ce matin, et je crois que le vrai message audible que Dominique Cardon passe, c'est qu'il faut observer, il faut aller sur le terrain. Et on ne peut pas continuer à faire de la pub comme ça sur ces principes qui sont certainement des vues de l'esprit parfois. Néanmoins, ce que je perçois dans cette vidéo, c'est l'aspect clinique des espaces d'exposition qui est conservé et qui ne ressemble pas finalement à... Il n'y a pas de fil qui traîne, etc. Ensuite, vous avez les applications, et cette application assez intéressante, la Mood App, donc Humeur, hein, c'est une application qui, selon votre humeur, vous propose une visite du Stedelijk Museum. Voilà, donc ça, c'est des variations. Et tout ça, c'est le produit, finalement, peut-être à un moment donné, de l'analyse des données. Et s'il y a analyse des données, c'est bien qu'il y a des robots, à un moment donné, qui ont capté, enregistré et peut-être analysé ces données. On l'a vu encore, hein, ça c'est peut-être aussi de la novlangue et autres. D'une certaine manière, on va aller vers de nouveaux emplois, où il y a déjà de nouveaux emplois dans les musées et dans les centres culturels. Les community managers existaient sur Internet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc c'est peut-être ça aussi, c'est pas la question du net art pour eux, mais c'est plus la question d'avoir une existence sur les réseaux Internet et donc de livrer des informations qui sont utiles et consommables de manière très précise. Et puis vous avez les fameux data analysts, et je pense que Florence, elle est peut-être partie, je ne sais plus si elle est là. C'est le métier peut-être de l'avenir, mais je ne sais pas encore, parce que là c'est à Dallas, hein. Voilà ce qui va se passer. Ici vous avez les directeurs, les conservateurs ou les directeurs de collection, et puis le data analyst avec ces tableaux. Donc ça n'a rien à voir avec Marc Lombardi ou du Raphaël Bocconfuso ou autre. Non, on est bien en train d'étudier et de représenter les pratiques et les usages des visiteurs du musée d'art contemporain de Dallas. Donc s'il y a des configurations qui se mettent en place, et ce sont des nouveaux métiers, et peut-être est-ce que ça va fonctionner ou pas. En tout cas, les directeurs de musées, notamment aux États-Unis, communique beaucoup là-dessus, et c'est un gage de modernité ou un vecteur de modernité. Ensuite, il y a de nouvelles configurations qui se mettent en place. Alors je vais aller vite là-dessus. Il y a peut-être un nouveau pacte anthropomorphique, et je l'ai dit, et ça c'était une très belle étude, hein, de Denis Vidal au musée au Quai Branly, hein, avec un robot qui est là, qui s'appelle Berenson. Et ça, c'est un tweet, hein, qui a été publié en 2013. Le robot Berenson est-il en train d'avoir une expérience esthétique ? C'est à découvrir donc au Quai Branly. L'intérêt de cette étude, qui est un peu hors cadre par rapport à tout ce que je dis, c'est que ce robot était là et il était observé en même temps. Enfin, il n'était pas du tout dissimulé ou présenté comme étant une sculpture ou quelque chose qui était expérimental, mais on essayait de voir aussi quelles étaient les interactions, d'une part, entre les visiteurs et ce robot-là, et puis les interactions possibles entre le robot et les objets d'art qui sont exposés. Donc la question qui se pose, c'est vraiment la relation que nous avons avec ces machines, et c'est vraiment la question de la fréquentation. Ensuite, vous avez la question du mythe, me semble-t-il, de l'offre personnalisée. Alors aussi, Florence en a parlé, hein, ses ambitions, qu'est-ce qu'on peut lire dans le marc des données ? Est-ce qu'il y a vraiment la possibilité de proposer quelque chose d'efficace et de personnalisé à un individu ou à un groupe d'individus ? Et donc, à la Minneapolis Institute of Art, on y croit vraiment et ça s'exprime de cette manière-là, hein, à travers leurs applications. Il y a cette idée de mieux comprendre les comportements des visiteurs, de mieux envisager les tendances et de savoir exactement ce que les visiteurs ont vu. Et donc c'est bel et bien explicité, c'est bel et bien assumé, mais ça pose beaucoup de problèmes sur le traitement des données, sur aussi les questions déontologiques dont parlait Florence tout à l'heure. Néanmoins, ça attire ou ça permet de cibler des groupes de visiteurs qui peut-être ne viendraient pas spontanément comme cela au musée. Autre point encore dans les nouvelles configurations, ce sont les nouvelles subjectivités et les nouveaux discours. Qu'est-ce que c'est, nouvelles subjectivités, nouveaux discours ? D'abord, c'est la question de la fréquentation du Google Art Project. Alors, je ne sais plus très bien où on en est véritablement aujourd'hui, mais lors de la mise en place du Google Art Project, il y a eu plus de 10 millions de connexions en fait, hein, dans les premiers mois. C'est impressionnant. Enfin, alors, qu'est-ce que c'est une connexion ? Est-ce que c'est quelqu'un qui appuie sur un bouton et puis qui se dit « ça ne marche pas, j'arrête » ? Est-ce que c'est quelqu'un qui véritablement passe du temps ? Là aussi, il faudrait voir, mais 10 millions. Donc on voit bien, depuis le début de mon propos, qu'on est dans une affaire de chiffres, de quantités, et aussi de données qui sont éparses et qu'on voudrait peut-être agréger, et avec lesquelles on voudrait peut-être avoir ou découvrir beaucoup de sens quant à notre relation à l'art. Ensuite, il y a aussi cette idée de s'exprimer et de produire un commentaire désormais quand on est un visiteur, hein, parce que quand on est dans un musée, donc il y a les guides, hein, qui nous permettent de construire un parcours, il y a aussi des outils qui nous permettent d'analyser, de comprendre, et puis il y a ces autres outils, là encore, les appareils photo et autres, qui nous permettent de s'exprimer et de produire un commentaire. Alors, pour rebondir peut-être sur la discussion qu'il y a eu tout à l'heure, moi, ce qui m'étonne depuis le début avec cette technologie de l'information, c'est ces téléphones portables. Donc, on a des attitudes spectatorielles, hein, d'une certaine manière, et on ne semble plus avoir ou considérer une expérience vécue sans enregistrement. Il faut qu'on photographie pour avoir un espèce de retour, de feedback, d'intérêt, de se dire j'ai vécu ça, ceci, cela. Et philosophiquement, c'est dur à penser. Enfin, il y a un philosophe qui pense ça, qui s'appelle Pierre-Damien Huyghe. Je vous conseille de lire ses textes. Il essaye de comprendre ce qui se cache derrière cette tension-là de vivre quelque chose, c'est nécessairement l'enregistrer. Et l'enregistrer, c'est le prendre en photo d'une certaine manière ou de laisser des traces. Et c'est ce qui se passe et c'est ce qui est exploité peut-être, ou ce qui semble exploité désormais dans les musées. Alors voilà, là, c'était pour citer, mais là, j'ai été frappé en visitant l'Expo Dynamo il y a 2-3 ans au Grand Palais, ce mur à l'entrée, hein, ce mur qui est un peu alors, panoptique, hein, pour le coup, parce qu'on nous montre ce qui se passe dans les salles, et puis il y a des chiffres, il y a le nombre de visiteurs dans telle ou telle salle, etc. Donc on est encore dans la quantification, et puis surtout on va exploiter les commentaires et les photos des visiteurs. Et donc, il y a des applications, et là, c'est Orange qui a fabriqué cette application et qui donne une parole et une visibilité à tout à chacun d'une certaine manière. La question, c'est que comment penser ces nouveaux commentaires, comment penser ces nouveaux regards et comment les articuler à un autre discours qui est plus critique ou qui vient de la critique d'art. Et d'ailleurs, enfin, voilà. Comment exploiter ça ? Là encore, je ne fais que soulever des questions, mais du côté de la recherche, on se dit, bon, bah, super, on va avoir accès à toutes ces données, et ça n'est pas vrai. Il faut payer pour avoir accès à toutes ces données, si on veut les comptes Twitter, accéder aux comptes Twitter. Et en même temps, qu'est-ce qui va se dégager de l'analyse de toutes ces données-là ? Peut-être rien du tout, et on le sait déjà, enfin, même... ouais, voilà. Donc, ouais, c'était super l'expo. C'était bien, je vous le conseille, tout et tout. C'est ça, quoi. Enfin, grosso modo, c'est ce qui en ressort. Ensuite, la question de la téléprésence. Et ça, pour moi, c'est aussi extrêmement important. La téléprésence, donc la présence à distance, hein, devient certainement une expérience esthétique fondatrice. Elle l'est pour de nombreux cas et de nombreuses situations. Mais ce qui s'installe, et on l'a vu avec les robots, c'est cette tension, cette dualité entre le in visu et le ex situ. Là aussi, c'est à penser. Enfin, je vous livre ça, hein, je ne vais pas plus loin. Normalement, l'expérience de l'art, c'est in situ hein, et in visu, enfin, bon, sauf pour l'art numérique et, et l'art, le net art peut-être, mais d'emblée, la fréquentation de l'œuvre, se déplacer, voir dans quelles conditions elle est accrochée, de connaître enfin, tout l'apparat qui est autour, c'est extrêmement important. Or là, il y a quelque chose qui apparaît dans l'expérience qui est à distance, c'est le in visu in situ. Qu'est-ce que ça veut dire visiter à distance et voir à distance? Il y a aussi cette chose extraordinaire qui s'appelle le through work, c'est ça. Alors je ne sais plus dans quel musée on est à la Tate Britain, là. Voilà. Donc avancer dans un musée par effet de fondu enchaîné, par translation comme ça un peu hors sol, on avance. Et quelle est la perception du lieu? Et qu'est-ce que ça veut dire quand je passe devant un tableau qui semble intéressant et je me tourne, il est soudainement pixelisé. Donc je suis un opérateur, enfin, j'avance, j'ai le contrôle sur cette image, mais il y a une expérience de l'art qui est possible grâce au robot, qui est en train de se construire et qui mérite d'être là aussi examiné d'une certaine manière. Vous avez aussi donc, cette relation écran et zoom. Alors, un des arguments du Google Art Project, c'est de dire que vous allez pouvoir rentrer dans le tableau et en voir la texture, la pâte, etc. Ça marche là, ça marche avec Van Gogh. Simplement, donc j'ai commencé mon enquête hein, quand même, je ne vous le dis pas tout. Là, ça ne marche pas. Là. Avec Botticelli, vous allez à l'Uffizi, vous êtes devant Botticelli et ce tableau-là, le printemps. Quand vous regardez la robe, le drapé et l'aspect diaphane est en relief en fait. Là, j'ai cherché, hein, quand vous avancez dans l'image, c'est un aplat et un vulgaire aplat. Alors, gain et perte. Comment traduire ça? C'est gain et perte. Donc là aussi, point à interroger. Alors après, bon, je vais peut-être laisser là, la question qui se pose, et pour rebondir par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est donc cette collusion d'une certaine manière et cette articulation entre deux dimensions temporelles. On parlait de l'espace-temps ce matin, hein, le ici et maintenant, qui nous est cher et qui a à voir avec notre dimension, notre morphologie, etc. Parce que finalement, avec le numérique, il y a beaucoup d'effractions morphologiques, hein, comme le dirait un certain Paul Virilio. Ça va beaucoup plus vite, les choses vont trop vite et on n'a pas le temps d'une part de les penser et d'autre part de les saisir. Donc tout ça est remis en cause. Donc le hic et nous qui est important et en même temps, il y a le ici et là qui est en train de se passer. C'est que tout cela est enregistré. Tout cela est consultable d'une certaine manière, manipulable. On peut le voir à distance comme on peut le voir dans le temps, plus tard, etc. C'est un état de l'art, une situation. Donc, ça pose la question de la fréquentation des œuvres d'art, de la fréquentation des collections, et sur quelle base, finalement, sur quel partage du sensible, dont tu parlais ce matin, enfin, quelle expérience commune partagée, finalement, allons pouvoir nous mettre en place, sur quel est le... Qu'est-ce qui fonde notre expérience commune, en fait? C'est ça, en fait. Voilà, j'étais en train de chercher mes mots. Quel est le fondement? Comment on va pouvoir dialoguer véritablement sur le statut de l'expérience esthétique, d'une part, et aussi sur la perception d'une œuvre et son interprétation? Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que j'étais assez clair.